Actes des apôtres par Samuel Frodon. Introduction. Le livre des Actes des apôtres suit tout naturellement les évangiles. Dans les quatre récits évangéliques, nous voyons quelque chose des gloires du Seigneur présentées dans ses actes et ses paroles sous les caractères de Messie, serviteur, fils de l'homme et fils de Dieu, puis sa mort, nécessaire pour que Dieu fût glorifié en sauvant le pécheur et, le troisième jour, sa résurrection. Les actes des apôtres font suite à l'évangile selon Luc. Ils sont du même auteur et s'adressent à la même personne, appelée dans l'évangile très excellent Théophile, probablement un fonctionnaire romain devenu chrétien. Une note en bas de page, le titre de « Très excellent » est donné à Félix et à Festus, chapitre 23, verset 26, chapitre 24, verset 3 et 26, verset 25. Dans les actes, il n'est plus appelé « Très excellent », soit qu'il eût renoncé à ses fonctions, soit que, dans l'intimité fraternelle, ce titre ne fut plus employé. À la fin de l'évangile selon Luc, le Seigneur dit à ses disciples, « Il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscitât d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, vous êtes témoins de ces choses. » Et voici, moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Chapitre 24, verset 46 à 49. L'Esprit de Dieu reprend ce sujet en acte 1 avec des détails omis dans l'Évangile. Le récit des actes se divise en deux parties. Premièrement, chapitre 1 à 12. Deuxièmement, chapitre 13 à 28. Dans la première partie, nous trouvons l'ascension du Seigneur, la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le ministère de Pierre et de Jean au milieu des Juifs, la conversion de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, la diffusion de l'Évangile en dehors de la Judée et la mort de Jacques. La seconde partie raconte le ministère de Paul au milieu des gentils, en prêchant le salut par la foi aux Juifs premièrement et aux Grecs, il fait connaître à tous les vérités relatives à l'Église, savoir son caractère céleste en union avec Christ glorifié, tête de son corps dont tout croyant est membre, en même temps que habitation de Dieu par l'Esprit, elle remplace Israël comme témoignage de Dieu sur la terre. Toute l'activité du grand apôtre des gentils est présentée dans quatre voyages missionnaires jusqu'à son emprisonnement à Rome, au cours desquels il écrivit ses épîtres. Chapitre 1er. Les disciples et Jésus ressuscité, versets 1 à 5.
Lecture de la parole. J'ai composé le premier traité, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné, par l'Esprit Saint, des ordres aux apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours, et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours.
Lecture de l'étude. J'ai composé le premier traité, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné, par l'Esprit Saint, des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Versets 1 et 2. Ce premier traité, l'Évangile selon Luc, comprend les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner. Toute l'activité du Seigneur ici-bas était le commencement de la grande œuvre qu'il allait continuer par la puissance du Saint-Esprit et au moyen de ses serviteurs jusqu'à l'accomplissement des conseils de Dieu pour le ciel et la terre. Dans le livre des Actes, nous voyons la part que les apôtres ont prise à cette œuvre. À la fin de l'Évangile, selon Marc, nous lisons « Le Seigneur, coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Marc 16, verset 20. Que pourraient faire les serviteurs de Dieu si le Seigneur n'opérait pas lui-même en eux et par leurs moyens? L'œuvre est celle du Seigneur. Le serviteur n'est qu'un instrument. Il l'a commencée lui-même sur la terre et elle sera entièrement achevée lorsque la terre actuelle aura fait place à une nouvelle terre sous des cieux nouveaux. Le Seigneur donna des ordres aux apôtres qu'il avait choisis par l'Esprit Saint, son agent, par lequel il a toujours tout accompli. Le Seigneur le reçut comme homme au début de son ministère pour son service, et c'est encore par le même Esprit qu'il agit après sa résurrection. L'Esprit de Dieu rappelle que le Seigneur s'est présenté vivant aux apôtres. Après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Verset 3. Cette déclaration a une très grande importance dans nos jours parce qu'elle affirme la vérité capitale de la résurrection du Seigneur. Après avoir souffert, il est mort, mais il s'est présenté vivant en donnant toutes les preuves qu'il était le même. Les apôtres le virent pendant 40 jours. Il mangea et but avec eux, dit Pierre au chapitre 10, verset 41, et il leur parla des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Nous trouvons dans le dernier chapitre de Luc les détails de ce que dit ce verset 3, car en Luc, l'Esprit de Dieu fait ressortir l'importante vérité que le Seigneur était le même après sa résurrection qu'avant. Quoique son corps fût un corps spirituel, tout en étant visible et tangible, ce que n'est pas un esprit. Lorsqu'il se trouva au milieu des disciples, il leur fit toucher ses mains et ses pieds pour les assurer qu'il était toujours le même, et il mangea devant eux, quoique son corps, devenu spirituel, n'eût plus besoin de nourriture. Ce n'est pas dans une apparition soudaine et passagère que les disciples virent Jésus ressuscité, mais durant 40 jours. Dans la parole, le nombre 40 représente le temps nécessaire à une épreuve. Il fallut 40 ans pour éprouver le peuple d'Israël dans le désert. Moïse resta 40 jours sur la montagne avec Dieu. Pendant ce temps, le peuple montra ce qu'il était en faisant le veau d'or. L'épreuve de l'homme dura 40 siècles, jusqu'à la venue de Christ. Le Seigneur demeura sur la terre le temps voulu de Dieu pour que la grande vérité de sa résurrection fût établie d'une manière irréfutable, car c'est par elle que l'œuvre de Christ acquiert toute sa valeur. Elle fournit la preuve que Dieu a été parfaitement glorifié par la mort de son Fils, et que tous nos péchés, qu'il avait pris sur lui à la croix ont été expiés, car s'il ne l'avait pas été, Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 17. Nous verrons dans ce livre l'importance de la résurrection dans la prédication de l'Évangile au milieu d'un peuple qui, après avoir mis à mort le Seigneur, avait cru aux mensonges de ses chefs qui disaient que ses disciples étaient venus de nuit et avaient dérobé son corps. Il est facile de comprendre que, si le Seigneur n'était pas ressuscité, tout ce qu'il a fait et dit durant son ministère aurait été de nulle valeur, puisque son œuvre et sa personne auraient pris fin dans la mort. En conséquence, la mort éternelle aurait été la part de tous les hommes. Satan aurait eu la victoire, puisqu'il aurait détruit toute l'œuvre de Dieu, ce qui était impossible. Des hommes pécheurs et perdus, Dieu voulait faire les habitants heureux et glorieux d'une terre nouvelle, sous des cieux nouveaux. Mais pour cela, il fallait un sauveur qui prit sur lui toutes les conséquences du péché, et, après avoir tout accompli, sortit de la mort triomphante et vainqueur. Nous nous sommes arrêtés sur ce verset 3 à cause de l'importance de la résurrection du Seigneur sur laquelle repose tout le christianisme, mais que méconnaissent aujourd'hui ceux qui enseignent que Jésus ne ressuscita qu'en esprit. Il n'est pas plus ressuscité en esprit qu'il n'est mort en esprit. Par la grâce de Dieu, il est bien mort. Il souffrit à notre place le jugement que nous avions mérité, et Dieu le ressuscita et le glorifia pour montrer sa parfaite satisfaction de l'œuvre accomplie quand il mourut sur la croix. C'est un homme véritable, mais un homme divin, qui vécut dans ce monde, qui mourut, qui ressuscita, qui est maintenant dans le ciel et qui reviendra en gloire avec tous les saints glorifiés pour régner 1000 ans sur cette terre. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas cru à sa mort expiatoire et à sa résurrection seront dans le Hadès en attendant de paraître devant lui en jugement lorsqu'il siégera sur le grand trône blanc. Apocalypse 20, versets 11 à 15.
Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel. Et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu.
Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours, versets 4 et 5. Nous avons vu, Jean chapitre 14 à 16, que le Seigneur avait annoncé plusieurs fois la venue du Saint-Esprit, appelé la promesse du Père, parce qu'il était promis dans l'Ancien Testament. Entre autres, Ésaïe 32, verset 15.
Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert devienne un champ fertile, et que le champ fertile soit réputé une forêt.
Ézéchiel 36, verset 27.
Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez.
Joël 2, verset 29.
Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit.
En attendant qu'ils accomplissent en faveur du peuple terrestre les prédictions des prophètes, il est venu comme consolateur de ceux que le Seigneur laissait ici-bas, comme puissance pour accomplir leur service, comme sceau de la foi chez ceux qui croient, et comme habitation de Dieu au milieu des siens sur la terre. Avant la venue et la glorification du Seigneur, le Saint-Esprit n'avait jamais habité personnellement sur la terre. Il avait agi momentanément chez les prophètes, chez des croyants, et même chez des non-croyants, comme dans le cas de Saül. Mais il ne demeurait pas en eux. 1 Samuel 10, verset 10.
Et voici, une troupe de prophètes venait à sa rencontre, et l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Et 1 Samuel 19, verset 24. Et lui aussi, il se dépouilla de ses vêtements et prophétisa, lui aussi, devant Samuel, et tomba nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi on dit, Saül aussi est-il parmi les prophètes.
Mais il ne demeurait pas en eux. Ascension du Seigneur, versets 6 à 9.
Lecture de la parole. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux.
Lecture de l'étude. Nous voyons les disciples dans une liberté et une intimité parfaites avec le Seigneur ressuscité. Au verset 4, il est assemblé avec eux, de même qu'au verset 6 où il l'interroge. Il ne pouvait s'assembler avec le monde qu'il avait rejeté. En dehors des disciples, personne ne le vit ressuscité. Il avait dit aux Juifs, « Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Matthieu 23, verset 39. Il en est de même aujourd'hui. Le Seigneur a promis sa présence, non à tout le monde, mais aux deux ou trois réunis à son nom. Les apôtres dirent au Seigneur, « Est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Ils conservaient leur pensée juive quant au royaume, croyant qu'il n'était que pour Israël. Le royaume de Dieu, dont le Seigneur leur a parlé au verset 3, est un ordre de choses divines, dans lequel on entre par la foi que l'on soit juif ou gentil. Le Seigneur répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Versets 7 et 8. Il y a deux parties dans la réponse du Seigneur. Dans la première, il ne leur dit pas que le royaume pour Israël ne sera pas rétabli, mais que le moment n'est connu que de son Père. Les temps et les saisons se rapportent à l'établissement du règne de Christ sur la terre et ne concernent pas l'Église, qui a sa part dans le ciel où il n'y a pas de temps ni de saison. Ces termes indiquent les temps qui doivent s'écouler avant que le roi prenne en main sa grande puissance pour régner. Pour ce moment-là, il attend la volonté de son Père. Le Seigneur dit en Marc 13, verset 32, « Mais quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. En 1 Thessaloniciens 5, verset 1, Paul dit « Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Il s'agit toujours de sa venue pour juger et régner. » Dans le chapitre 4, l'apôtre avait parlé de la venue du Seigneur pour ressusciter les morts en Christ et transmuer les vivants. Cette venue peut se produire d'un instant à l'autre. Chaque croyant l'attend journellement pour être introduit, non dans le royaume terrestre, mais dans le ciel où sont ses bénédictions éternelles. S'il s'agit de la venue du Seigneur en gloire avec tous les saints, elle est en rapport avec les temps et les saisons. Elle surprendra, comme un voleur dans la nuit, ceux qui auront été laissés lors de l'enlèvement des saints. Dans la seconde partie de sa réponse, le Seigneur indique aux disciples leur part en attendant le rétablissement du royaume. Laissés dans le monde qui avait rejeté le Seigneur et qui lui était toujours hostile, ils seraient ses témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'au bout de la terre. Partout, on devait porter le témoignage de ce qu'est le Seigneur et le Sauveur du monde. Pour être les témoins de celui que les hommes ont crucifié et que est le cœur naturel, il leur fallait de la puissance. Le Saint-Esprit viendrait sur eux et les rendrait capables d'accomplir leur service. Ils auraient ainsi à leur disposition la même puissance que le Seigneur a eue pour accomplir son œuvre ici-bas. Lui que Dieu a oint de l'Esprit-Saint et de puissance, qui a passé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, dit Pierre au chapitre 10, verset 38. Nous verrons dans les récits de ce livre de quelle manière l'Esprit de Dieu opéra en eux et les rendit capables de faire ce que le Seigneur leur disait en Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père, verset 12. » Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux, verset 9. Quel fait étrange et merveilleux de voir un homme élevé au ciel du milieu de ceux qui l'entouraient. C'est ce qui aura lieu lorsque le Seigneur viendra. Les enfants de Dieu pourront se trouver au milieu de non-croyants, à leur travail, en voyage ou ailleurs, et disparaîtront à la rencontre du Seigneur en l'air, lorsque le cri du commandement et la trompette de Dieu se feront entendre. Beau moment pour ceux qui sont prêts, mais angoisse terrible pour ceux qui seront laissés, pour autant qu'ils pourront se rendre compte de leur situation. Ensuite, le jour du Seigneur les surprendra comme un voleur dans la nuit. Nous aimons à croire qu'aucun de nos lecteurs ne sera du nombre de ceux-là. L'Ancien Testament nous parle de deux hommes qui montèrent au ciel sans passer par la mort, Hénoc, figure de l'Église, enlevé avant les jugements, l'a été avant le déluge, et Élie, après avoir achevé son ministère. Mais on remarquera la différence des expressions que l'Esprit de Dieu emploie à propos de l'enlèvement du Seigneur et de ces deux hommes de Dieu. Du Seigneur, il est dit qu'il fut élevé. Une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Mais d'Hénoc, qu'il fut enlevé, Hébreux 11, verset 5, d'Élie aussi, Deux Rois 2, verset 3 et 5.
Hébreux 11, verset 5, par la foi Hénoc fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Deux Rois chapitre 2, verset 3 et 5. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Et il dit « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Et il dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. »
Le Seigneur fut élevé dans le ciel où il avait le droit d'entrer avec toute la gloire qui lui était due. Les portails éternels se sont élevés pour laisser entrer le roi de gloire. Psaume 24, versets 7 à 10.
Portes, élevez vos têtes, et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Portes, élevez vos têtes, et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est-il ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui, est le roi de gloire, c'est là.
Comme les apôtres regardaient, une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. La nuée est le signe de la demeure de Jéhovah. Jésus y entrait de plein droit. Lorsque cette nuée remplit le tabernacle au désert, et plus tard le temple de Salomon, personne ne put y entrer, car la présence de Dieu est inaccessible à l'homme naturel. Exode 40, versets 34 et 35.
Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. 1 Roi 8, versets 11 et 12. Et il arriva que, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.
Il n'est pas dit qu'une nuée reçut Élie. Un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent d'Élisée, et il monta au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2, verset 11.
Et il arriva comme ils allaient, marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu. Et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon.
Les chars et les chevaux de feu sont des anges. Le feu figure le jugement qui avait caractérisé le ministère d'Élie. Lorsque le Seigneur reviendra du ciel pour exercer la vengeance, ce sera avec les anges de sa puissance en flammes de feu, et qu'il dit en 2 Thessaloniciens 1, verset 8.
Les anges de sa puissance en flammes de feu exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Les anges exécutent les jugements de Dieu. Les anges n'étaient pas nécessaires pour que le Seigneur montât au ciel. Venu du Père, il s'en allait au Père après avoir accompli toute l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Les messagers célestes, versets 10 à 14.
Lecture de la parole. Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se tinrent là, à côté d'eux, qui aussi dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre et Jean et Jacques, et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon Zélote et Jude, frère de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères.
Lecture de l'étude. Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se tinrent là à côté d'eux, qui aussi dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Versets 10 et 11. On se représente aisément la surprise des disciples qui, ayant retrouvé le Seigneur après sa résurrection, n'avaient pas encore compris qu'ils devaient remonter au ciel, puisqu'ils espéraient qu'il rétablirait le royaume pour Israël. Ils croyaient, avec raison, qu'il accomplirait ce que les prophètes avaient annoncé quant à son règne. Mais le rejet du roi différait l'établissement du royaume. Dieu, dans sa bonté, leur envoya deux anges pour les rassurer, en leur disant que Jésus reviendrait de la même manière qu'ils l'avaient vu monter au ciel. Le fait qu'il était rejeté n'annulait pas l'accomplissement des promesses. La foi des disciples reçut un précieux encouragement. Et au lieu de regarder vers le ciel comme si tout était perdu, ils s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, est-il dit en Luc 24, verset 52, puisqu'ils savaient que Jésus reviendrait. Le retour du Seigneur, annoncé par les anges, n'est pas sa venue que nous attendons aujourd'hui pour ressusciter les morts et transmuer les vivants. Il s'agit de son apparition glorieuse dont les prophètes ont parlé. C'est de la montagne des Oliviers que Jésus est monté au ciel, et nous lisons en Zacharie 14, verset 4, « Ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Il s'y tiendra aussi pour délivrer le résidu pieux et Jérusalem, tombé entre les mains des nations. Tous ceux qui leur auront fait la guerre seront détruits, et le Seigneur établira son règne de paix et de justice, non seulement pour Israël, comme les disciples le pensaient, mais sur toutes les nations. Le temps qui s'écoule entre l'ascension et le retour du Seigneur est nécessaire pour que l'évangile de la grâce soit annoncé au monde en vue de former l'Église, l'épouse du roi, qui apparaîtra avec lui en gloire. C'est pourquoi il la prendra auprès de lui, en même temps qu'il ressuscitera tous les saints endormis, avant de venir pour régner. Si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Il les amènera glorifiés sans qu'il en manque aucun. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. Zacharie 14, verset 5. Après avoir reçu le message des anges, les disciples retournèrent à Jérusalem, dans la chambre haute, où demeuraient les 11 apôtres dont les noms sont donnés au verset 13. Là, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, verset 14. La chambre haute est souvent mentionnée. C'est là, dans ce lieu retiré, en dehors du monde et de son agitation, dégagé de son influence, que les disciples pouvaient librement faire monter à Dieu leurs prières. Aujourd'hui, nous avons aussi le privilège de nous réunir pour chercher la présence du Seigneur dans un lieu qui correspond à la chambre haute, hors du monde agité et de toutes ses formes religieuses. Là, le Seigneur a promis sa présence, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Nous trouvons encore la chambre haute dans les Actes, au chapitre 9, verset 37, et 20, verset 8.
Et il arriva en ce jour-là qu'étant tombée malade, elle mourut. Et quand ils l'eurent lavée, ils la mirent dans la chambre haute. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
En réalité, cette pièce était située au haut des maisons en Orient, et même bâti sur les toits qui, dans ces pays, sont plats. mais c'est la situation figurée de cette chambre qui est significative pour nous. C'est dans la chambre haute qu'Élisée, après avoir fermé la porte sur lui seul, supplia l'Éternel pour la résurrection du fils de la Tsunamite, Deux Rois chapitre 4. Pierre veut aussi être seul pour prier lors de la résurrection de Dorcas, acte 9, verset 40.
Mais Pierre, les ayant tous mis dehors et s'étant mis à genoux, pria, et, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi ». Et elle ouvrit ses yeux, et voyant Pierre, elle se mit sur son séant.
Le Seigneur lui-même rechercha cet isolement pour ressusciter la fille de Jaïrus. Luc 8, verset 54.
Mais lui, les ayant tous mis dehors et l'ayant prise par la main, cria, disant, « Jeune fille, lève-toi ».
Cette chambre était tout indiquée aux disciples pour y habiter et persévérer dans la prière, car ils sentaient leur isolement au milieu de la ville coupable, meurtrière des prophètes et de son roi. Ils se souvenaient des exhortations du Seigneur à la prière en vue de son départ. Jean 14, versets 13 et 14.
« Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. »
Jean 15, versets 7 et 16.
« Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. »
Jean 16, versets 23, 24 et 26.
« En ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai les demandes au Père pour vous. »
C'était là leur unique ressource, celle du croyant dans tous les temps et toutes ses circonstances. C'est pourquoi la prière est si importante. Le Seigneur écoute celle des petits-enfants comme celle des grandes personnes. La position des disciples était tout à fait spéciale. Selon la promesse du Seigneur, ils attendaient à Jérusalem la venue du Saint-Esprit en persévérant dans la prière avec les femmes, parmi lesquelles se trouvait la Mère du Seigneur. Elle s'unissait de cœur aux prières des disciples. L'Esprit de Dieu a soin de mentionner ce fait pour montrer combien grande est l'erreur de ceux qui s'adressent à elle sous le titre de Vierge Marie, afin qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils. Malgré le grand honneur qu'elle eut de communiquer l'humanité au Fils de Dieu, c'était par nature une pécheresse, sauvée par l'œuvre de la croix, dépendante de Dieu comme une autre disciple. Les frères de Jésus étaient devenus croyants depuis qu'il était dit d'eux qu'ils ne croyaient pas en lui. Jean 7, verset 5.
Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Remplacement de Judas, versets 15 à 26. Lecture de la parole. Et en ces jours-là, Pierre se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120, dit, « Hommes frères, il fallait que fût accomplie cette écriture que l'Esprit-Saint a dite d'avance par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus, car il était compté parmi nous, et il avait reçu en partage ce service. Celui-ci donc s'était acquis un champ avec le salaire de l'iniquité, et étant tombé la tête en avant, s'est crevé par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ-là est appelé dans leur propre dialecte Aseldama, c'est-à-dire champ de sang, car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure soit déserte et qu'il n'y ait personne qui y habite, et qu'un autre prenne sa charge de surveillant. Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en mirent deux sur les rangs, Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Juste, et Matthias. Et priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils reçoivent en partage ce service et cet apostolat, duquel Judas est déchu, pour s'en aller en son propre lieu. » Et ils jetèrent le sort sur eux, et le sort tomba sur Matthias, et il fut adjoint aux 11 apôtres.
Lecture de l'étude. Pendant les jours qui s'écoulèrent entre l'ascension du Seigneur et la descente du Saint-Esprit, Pierre se leva au milieu des disciples, réunis au nombre d'environ 120, et leur démontra que ce qui était arrivé à Judas marquait l'accomplissement des Écritures, comme l'Esprit-Saint l'avait annoncé par la bouche de David. Il rappelle que l'argent rapporté par Judas au chef des Juifs, lorsqu'il vit Jésus condamné, avait servi à acheter le champ sur lequel le traître s'était ôté la vie et appelé Aseldama, champ de sang. Il cite un passage du psaume 69, verset 25, relatif à ce lieu-là, que sa demeure soit déserte et qu'il n'y ait personne qui y habite, et un autre, psaume 109, verset 8, indiquant que Judas devait être remplacé, qu'un autre prenne sa charge de surveillant. Avec l'autorité de cette écriture, Pierre dit, « Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous, pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. » Versets 21 et 22. Nous voyons de nouveau l'importance de la résurrection dans le témoignage que les apôtres avaient à rendre du Seigneur. Remarquons aussi dans ce discours de Pierre que c'est la parole écrite qui dirige les croyants. Le Seigneur avait ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprissent les Écritures, en sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'une autre direction pour remplacer Judas. Luc 24, verset 45.
Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures.
Aujourd'hui, la révélation de Dieu, tout à fait complète, contient tout ce qui est nécessaire aux croyants pour le guider dans sa marche et l'instruire à tous égards. Tout enseignement qui n'est pas en accord avec les Écritures ou qui proviennent d'une autre source, de soi-disant révélation de l'Esprit ou des esprits, est faux. L'Esprit de Dieu dirige au moyen de la parole écrite. Les apôtres mirent deux disciples sur les rangs, Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Juste, et Matthias. Et priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils reçoivent en partage ce service et cet apostolat duquel Judas est déchu pour s'en aller en son propre lieu. » Versets 24 et 25. Il importait d'avoir la direction de Dieu pour choisir cet apôtre. On voit le Seigneur passer la nuit en prière avant d'appeler ses disciples. Luc 6, versets 12 à 16.
Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples, et en ayant choisi 12 d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtre, Simon, qu'il nomma aussi Pierre et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée, et Simon, qui était appelé Zélote, et Judas Iscariote, qui aussi devint traître.
Les apôtres, dès le début, font usage de la parole et de la prière, ces précieuses ressources encore à notre disposition jusqu'à la venue du Seigneur. Si nous en faisons usage, nous serons gardés d'agir d'après notre propre volonté et de tout ce que Satan emploie pour nous nuire et nous empêcher d'honorer le Seigneur par une marche d'obéissance. Les apôtres jetèrent le sort sur ses deux disciples et le Seigneur le fit tomber sur Matthias. Peut-être aurait-il choisi Joseph puisqu'il le nomme en premier lieu. Nous n'avons plus besoin d'employer le sort, coutume juive, parce que la parole de Dieu est complète et que le Saint-Esprit dirige le croyant avec intelligence pour qu'il se conforme aux Écritures et en faisant usage de la prière.